Libre débat. Reportages, plateaux radio ou sons glanés sur les ondes des radios libres pour faire écho aux luttes en tout genre. Histoire, féminisme, frontières, autodéfense numérique, Marseille en lutte, archives LGBTQIA+. C'est tous les mercredis de 16h30 à 18h sur Radio Galère 88.4. Auditrices et auditeurs de Radio Galère, bonjour, bienvenue dans Libre Débat. Contrairement à ce qui est encore dit dans le jingle, Libre Débat maintenant c'est plus hebdomadaire mais c'est mensuel et c'est tous les deuxièmes mercredis du mois. Ce mois-ci, je vous propose d'écouter le quatrième volet de l'excellente série d'émissions Le coût des smartphones. Une émission produite par des camarades de Radio Campus Grenoble. On avait écouté l'an passé l'épisode 1 sur l'extraction minière en RDC, l'épisode 2 sur l'addiction aux smartphones, l'épisode 3 sur comment ça fonctionne les clouds et la matérialité de la soi-disant dématérialisation. Et là, ce quatrième épisode va plonger dans la réalité matérielle de l'intelligence artificielle et de sa promotion. Bonne écoute.
Je me lève le matin, je scrolle. Je scrolle chaque fois que j'ai du temps libre, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais de temps libre. Et je scrolle le soir, je scrolle tout le temps.
Le coût des smartphones. Une émission critique du numérique.
Complètement accro car ces applis sont conçues à la base pour sécréter dans ton cerveau la molécule responsable du plaisir, de la motivation et de l'addiction.
Le coût des smartphones.
Si vous commencez à utiliser un smartphone, vous allez en avoir de plus en plus besoin. C'est pour ça que la meilleure manière de ne pas en avoir, c'est de ne pas commencer.
Une émission critique du numérique.
Dans 50 mètres, prenez la deuxième à droite. Prenez la deuxième à droite. Non. Stop. T'es con ou quoi? J'ai dit la deuxième. Bon. Calcul en cours.
Si l'on fait sur Internet une recherche d'images en rapport avec l'intelligence artificielle, on obtient des dizaines de photos de cerveaux lumineux et de codes binaires flottant en chiffres bleus dans l'espace. De même, l'opinion collective répugne à affronter la matérialité de ces technologies.
Bonjour.
Bonjour.
Alors, bienvenue dans ce nouveau volet du coût des smartphones. On vient d'entendre un extrait du contre-atlas de l'intelligence artificielle et on va entendre d'autres extraits de ce même livre. Alors aujourd'hui, on parle de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, elle fascine, elle intrigue ou inquiète. Et pourtant, elle est partout. Elle désigne un peu n'importe quoi. Et en même temps, son développement a des conséquences bien réelles sur la vie de millions de personnes. Alors, on a déjà abordé la matérialité du numérique dans notre dernière émission, si jamais vous aviez raté cet épisode.
Et aujourd'hui, dans cet épisode consacré à l'intelligence artificielle, on va commencer par expliquer ce que c'est une intelligence artificielle et surtout en quoi elle n'est ni intelligente ni artificielle. Et on verra aussi comment la fascination qu'on porte à ces programmes informatiques conduit souvent à une absence de critique de leur existence ou de leur utilisation. Ensuite, on parlera de la notion très réductrice de la notion d'intelligence qui est utilisée dans le cadre de l'intelligence artificielle. Et puis, on vous racontera l'exploitation des travailleurs et travailleuses qui sont bien cachés dans cette histoire d'intelligence artificielle. Mais sans elle, il n'y aurait pas d'IA.
Alors pour commencer, on va écouter un extrait de la conférence de Lunar qui s'appelle « Informatique ou liberté » où il nous explique ce qu'est qu'un programme.
L'ordinateur, c'est une machine, quoi. Ça fait que ce qu'on lui dit, en fait. C'est une machine qui fait des calculs en utilisant pour ça de l'électricité. Et voilà, et fondamentalement, ça fait des calculs que ça fait, le genre de comment ça résout des problèmes. Les trois opérations, ça fait de l'arithmétique, addition, soustraction, etc. etc. Ça fait des copies de nombres, comme ça, à plusieurs endroits, et ça fait des comparaisons entre deux résultats de calcul. Voilà, c'est ces suites de calculs qui peuvent devenir très longues et très complexes, on appelle ça des programmes. Et donc l'activité d'expliquer à l'ordinateur qu'est-ce qu'il doit faire, c'est programmer, ou on dit des fois aussi coder. Et ce qu'il faut se rendre compte, c'est que comme un ordinateur, c'est une machine qui utilise de l'électricité pour faire des calculs, quand on fait des calculs avec un ordinateur, on manipule de l'électricité. Donc quand on programme un ordinateur, on décide comment il va manipuler l'électricité. Et ce qui est intéressant quand on manipule l'électricité, c'est qu'on peut allumer une lampe, faire tourner un moteur. Un ordinateur, ça fait précisément ce qu'on lui dit. Pas autre chose, quoi.
Les programmes sont constitués d'algorithmes. Alors c'est un mot qu'on entend partout et on a l'impression que c'est un truc, mais alors super compliqué. Alors en fait, on appelle algorithme une suite d'instructions qui nous donne un résultat attendu. Ça fait un peu obscur comme ça, mais l'exemple qu'on prend souvent, c'est celle de la recette de cuisine. Ben, un gâteau, par exemple. On va suivre des instructions les unes après les autres pour aboutir au gâteau qui est le résultat qu'on attendait. Et ben, c'est ça un algorithme. Alors bien sûr, au niveau informatique, ça sera des suites d'instructions plus longues, plus de calculs, et tout ceci dans un langage compréhensible de l'ordinateur. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'algorithme, il est fabriqué pour un résultat déterminé. Les algorithmes, ils se trouvent partout. Par exemple, quand on clique sur un programme qu'on veut ouvrir, c'est un algorithme qui a été fabriqué pour dire que quand le curseur de la souris, ou alors quand notre doigt, clique sur le programme, ça ouvre la fenêtre du programme. On a aussi des algorithmes comme celui de YouTube qu'on appelle des agents de recommandation. Alors, on regarde une vidéo et l'algorithme va nous proposer une liste d'autres vidéos à regarder. Ces autres vidéos sont sélectionnées parce qu'elles ont un bon nombre de visionnages et parce qu'elles ont été aussi regardées par des personnes qui ont vu plusieurs des vidéos qu'on vient de voir. Et pourquoi cet algorithme ? Eh ben, c'est pour qu'on reste un maximum de temps sur la plateforme à regarder les vidéos et à enrichir les actionnaires de Google, propriétaires de YouTube.
Et c'est ce même genre d'algorithme qu'on va retrouver dans les publicités ciblées de Google. À partir de l'analyse de notre navigation sur Internet, le moteur de recherche va nous proposer des publicités qui vont correspondre à des recherches qu'on a effectuées.
Alors ces algorithmes, ils sont à la base de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors on voit bien que c'est très vague finalement ce mot. L'intelligence artificielle, c'est par exemple les moteurs de recherche, les algorithmes de recommandation, on a vu celui de YouTube. C'est aussi les systèmes de navigation GPS, les accueils téléphoniques, les chatbots des services clients, les voitures autonomes, entre guillemets, etc.
Alors l'intelligence artificielle, c'est un peu le futur qui s'invite au présent. Jusque-là, on imaginait des choses, on regardait des films ou on lisait des romans avec des inventions et des technologies incroyables. Et puis, c'est devenu réalité. Est-ce qu'on se serait dit il y a 30 ans que des voitures rouleraient sans chauffeur ? On était dans le cinquième élément avec des voitures volantes et paf, 30 ans plus tard, les voitures roulent sans chauffeur et on a failli voir des taxis volants au JO de Paris. Alors la fascination pour les technologies, et en particulier pour les intelligences artificielles, est en partie renforcée par des récits de science-fiction, les livres, le cinéma, les séries. Et ces histoires peuvent nous faire rêver, mais elles font souvent cauchemarder, elles portent des critiques sociales. Mais cependant, comme l'explique Isabella Herman dans son ouvrage, qui n'est pas traduit en français, Artificial Intelligence in Fiction... Ok, je reprends avec une tentative d'accent anglais. Artificial Intelligence in Fiction, Between Narrative and Metaphors. Les critiques, selon elles, ne sont pas toujours bien placées et peuvent permettre de détourner l'attention des conséquences réelles et des technologies et des IA.
Cependant, l'ASF n'est pas une vision prévisionnelle ou une évaluation de la technologie, mais elle raconte des histoires pour un public humain. Pour que l'intrigue fonctionne, l'IA est souvent présentée comme semblable à des humains ou autonomes, sans tenir compte des limites technologiques réelles. Prendre l'IA de science-fiction trop littéralement, et même utiliser cela dans la communication scientifique, déforme l'image du potentiel actuel de la technologie et détourne l'attention des implications et des risques de l'IA dans le monde réel. Ces risques ne concernent pas les robots humanoïdes ou les machines conscientes, mais le repérage, la discrimination, l'exploitation et la surveillance des êtres humains par les technologies de l'IA, par l'intermédiaire des gouvernements et des entreprises.
Alors, on remercie Zacha pour la traduction des extraits et ce petit bout de texte qui résume un extrait du bouquin de Isabella Herman. Alors, à chaque fois qu'un film ou un livre fait flipper autour, par exemple, d'une prise de pouvoir par des robots ou des intelligences artificielles, en fait, il nous détourne des prises de pouvoir réelles des entreprises capitalistes. Et quand un ouvrage décrit des discriminations vécues par une intelligence artificielle, on doit le prendre comme une métaphore des discriminations et des violences réellement vécues dans notre société actuellement, et pas comme d'hypothétiques possibles futurs. Alors, malgré tout l'amour que je porte au genre de la science-fiction, il est nécessaire de se questionner sur la manière dont il peut renforcer une fascination pour les technologies et en particulier pour l'intelligence artificielle. Et en même temps, dire science-fiction ne signifie pas grand-chose, parce que le genre il est traversé par des courants politiques très divers, allant de la propagande d'État à la critique sociale radicale. Et par exemple, la science-fiction, elle peut être utilisée à des fins de propagande étatique, et c'est le cas de la Red Team Defense, qui est un programme qui a été créé en 2019 par le ministère des Armées en France. Et c'est un programme qui fait travailler ensemble des auteuristes et des dessinateuristes de science-fiction avec des experts scientifiques et des experts militaires. Et le but est d'imaginer l'armée du futur, ou les menaces futures visant la France ou ses intérêts, comme c'est assumé dans le teaser officiel.
Red Team. Quel futur ? Quel futur ? Face à un avenir de plus en plus complexe et incertain. Une initiative du ministère des Armées, le projet Red Team. Faire appel à la science. Faire appel à la science-fiction. Avec pour mission d'imaginer le futur à l'horizon 2023, à l'horizon 2060. Ces menaces, ces défis, ces mutations. Déconstruire les idées reçues. Identifier les signaux faibles. Raconter l'histoire d'un monde qui change. Voir autrement. Se tenir prêt et anticiper. Pour défendre les intérêts, l'intégrité, la souveraineté de la France. Red Team à l'initiative du ministère des Armées.
Alors voilà, c'était le teaser officiel pour la Red Team sur lequel on a ajouté des voix parce qu'en fait le texte il est juste écrit derrière la musique. Alors, la Red Team, elle a déjà publié deux recueils de nouvelles de science-fiction. Et dans un des scénarios autour de la thématique pirate, la menace, c'est celle de groupes de migrants climatiques qui se constituent en pirates et qui s'attaquent au système d'extraction minière de la France. Du coup, on voit que c'est un scénario qui s'appuie directement sur des imaginaires racistes et capitalistes avec la stigmatisation des migrants et la défense des intérêts économiques de la France.
Ouais, super. Très inspirant. Alors, la fascination pour les inventions technoscientifiques comme la voiture autonome ou l'intelligence artificielle, elle est renforcée en fait par le fait qu'on ne comprend pas trop comment ça fonctionne. Ça nous dépasse parce que ça nous paraît toujours un peu surréaliste tout ça. Et cette fascination, bien exploitée bien sûr par les entreprises et les médias, elle rend la course aux technologies positives et nécessaires. L'IA, c'est aussi le mythe du dépassement humain, de la maîtrise totale de la science, le mythe du progrès technologique. Ce sont tous ces imaginaires qui sont entassés derrière l'intelligence artificielle et qui la rendent fascinante. La capacité de reproduire le cerveau humain, de téléverser notre mémoire dans un ordinateur, de devenir immortel, de devenir créateur ou créatrice d'individus conscients, de maîtriser et comprendre le cerveau, la vie, l'intelligence, d'accéder à la vérité scientifique. Alors cette fascination, elle va aussi créer une diminution de la distance critique parce que c'est vachement dur de critiquer ce qui nous fascine. Ça diminue considérablement notre capacité à prendre du recul. Et c'est donc cette fascination technologique qui facilite une acceptation, qui donne envie d'essayer, puis de réessayer, puis d'utiliser, puis de pratiquer et puis en fait de défendre.
Parce que quand même, c'est vachement pratique.
Bah, on pourrait se demander, mais à quoi ça sert tout ça? Mais en fait, là, bon, on passerait pour une sale rabat-joie, alors que c'est trop dément d'aller voyager dans l'espace. Il semble que, en fait, de la science-fiction, on a bien mis de côté les Big Brother ou autres narrations critiques de la course au progrès et aux technologies pour ne garder, en fait, qu'un enthousiasme naïf face à toutes ces inventions. On met de côté le fait que des milliers de données sont stockées pour analyser nos goûts et nos comportements et pour pouvoir les influencer à minima, à des fins commerciales et sinon plus.
Comme on l'a vu avec le Brexit ou avec diverses élections. Alors, on se réjouit des nouvelles offres que cela nous propose, même si on n'en avait pas besoin jusque-là. Et génial, on a un ordinateur qui tient dans la poche et super, je peux me géolocaliser partout juste pour pas me perdre.
Finalement, l'intelligence artificielle est là pour nous simplifier la vie. Elle peut écrire notre CV à notre place ou notre disserte de français. On peut être soigné, même en désert médical, grâce aux cabines. On peut traverser un poste frontière au pas de course si on a les bons papiers. On peut avoir une recette de pâte à crêpes générée à partir de plusieurs. Une chanson écrite spécialement pour les 80 ans de mamie à partir de ses goûts. Une traduction automatique d'un article qui vient de paraître. Des conseils sur tout ou n'importe quoi. Mais c'est tellement pratique. Alors on croit que l'IA nous facilite la vie. Et même si on a des doutes, bah on l'essaye juste pour voir, parce que c'est un phénomène de société, ça serait quand même con de passer à côté.
L'intelligence artificielle transforme l'éducation, mais va-t-elle remplacer les salles de classe et mettre l'école en danger? Loin de là. L'IA améliore l'enseignement en offrant un apprentissage personnalisé, adapté aux besoins de chaque élève. Les enseignants utilisent l'IA pour identifier les difficultés des élèves et leur fournir des ressources spécifiques. Cela ne remplace pas les enseignants, mais les aide à se concentrer sur ce qui compte vraiment, l'accompagnement et le soutien des élèves. L'IA automatise les tâches administratives, libérant du temps pour des interactions humaines essentielles. Elle permet aussi de créer des contenus éducatifs interactifs et engageants, rendant l'apprentissage plus attractif. L'IA ne remplace pas l'école, elle l'enrichit. L'éducation évolue pour intégrer des technologies avancées, préparant les élèves aux défis de demain. L'avenir de l'école est prometteur, avec l'IA comme allié.
Mais alors, blablabla, mais pour réellement croire que l'intelligence artificielle nous facilite la vie, eh ben, il faut d'abord occulter tous les aspects délétères de cette intelligence artificielle. Et en fait, c'est ça finalement la magie de l'IA. Le fait qu'on oublie l'extractivisme et les impacts matériels du monde numérique. Ce sont des sujets qu'on a abordés dans les derniers épisodes. L'extraction des matières premières, l'accaparement et la pollution de l'eau, la déforestation, le fait qu'on oublie l'exploitation des travailleurs et des travailleuses très précaires du numérique, le fait qu'on oublie le contrôle et la surveillance permises et facilitées par les algorithmes. Donc, bah non. En fait, l'intelligence artificielle ne nous facilite pas la vie. En tout cas, pas la vie de tout le monde. Elle est utilisée par une très petite minorité à qui elle facilite la vie et qui ne voit pas l'immense majorité du monde qui en paye les conséquences.
L'Agence internationale de l'énergie estime qu'une interaction avec une IA comme ChatGPT pourrait consommer 10 fois plus de courant qu'une recherche Google classique. Dit autrement, si toutes les recherches Google, 9 milliards par jour, passaient par ChatGPT, la consommation électrique mondiale augmenterait de 10 à 30 TWh annuellement, soit la consommation annuelle de l'Irlande.
Alors l'intelligence artificielle, c'est devenu un phénomène social, et aussi un sujet médiatique et un effet marketing. En quelques années, de plus en plus de choses sont étiquetées « intelligence artificielle ». Tout et n'importe quoi peut devenir une IA. Mais ce terme recouvre des formes et des réalités très différentes, comme on l'a vu juste avant. Cette omniprésence participe à l'acceptation à travers des formes de résignation. L'IA est déjà partout. C'est comme ça, il faut l'accepter. Il n'y a pas de choix. Et restons à la page. Et puis encore une fois, on abandonne la distance critique et on accepte. Et puis, même si on est récalcitrant ou récalcitrante au départ face à l'IA, on va finir par s'en servir parce que finalement ça existe et puis ça gagne du temps. Et puis c'est là, alors ben, autant en profiter. Et puis, on s'habitue petit à petit à tout un tas de choses qui semblaient inimaginables avant. On accepte d'avoir des groupes de travail sur WhatsApp, ce qui fait qu'on reçoit des notifications ou des sollicitations même en dehors de nos horaires. On met notre système de navigation GPS à chaque fois qu'on monte dans une voiture, même si on connaît déjà le trajet. Et puis on a une appli pour allumer les lumières de l'appartement parce que on aime bien changer d'éclairage. Un jour, on demande à Alexa de nous faire une présélection de musique ou de nous dire l'actualité. Et puis, on fait des booms au rythme des présélections algorithmiques de YouTube. Alors, l'IA devient un gage de qualité, un argument de vente coincé entre un imaginaire d'efficacité et une fascination technologique.
Just to do anything you want us to.
Sur Radio Campus Grenoble 90.8 avec le coup des smartphones, et on vient d'entendre un morceau de Kraftwerk, The Robots.
Alors on a déjà vu que l'intelligence artificielle n'était pas artificielle. Eh bien, elle n'est pas non plus intelligente. Alors c'est quoi l'intelligence ? Alors ça va être dur de résumer des débats sur des siècles entre des philosophes et des scientifiques pour définir l'intelligence. Ce qu'on peut critiquer par rapport à ce monde capitaliste et par rapport à l'intelligence artificielle en particulier, c'est une approche vraiment rationnelle de l'intelligence. L'intelligence, ce serait le calcul, c'est-à-dire la capacité à apprendre, comprendre et à s'adapter à des situations grâce au calcul. On est là dans un cadre très cartésien, tout est calculable, tout est contrôlable, sauf qu'en fait, c'est pas vrai. On peut pas tout comprendre par le calcul. Et les calculs ne permettront jamais de comprendre la complexité du monde. Mais ça, alors c'est une idée vraiment insupportable, horrible pour les scientifiques qui aiment vraiment tout mettre en boîte. Alors un exemple qui fait tourner les scientifiques et les intelligences artificielles en rond, ce sont les émotions. Il semble que c'est à cet endroit, philosophiquement, qu'on sépare les animaux du reste du monde sur la capacité à vivre, à montrer, à comprendre, à partager des émotions. Or, un calcul, un algorithme, ne peut pas produire une émotion.
On peut apprendre à ChatGPT à répondre à des émotions de manière complètement calculée. Par exemple, on peut coder que si une personne dit qu'elle est triste, il faut poser telle question ou lui dire telle phrase rassurante. Alors rien n'est laissé au hasard. Mais ChatGPT ne ressent pas les émotions de ses interlocuteurs et interlocutrices. C'est une calculette. Et on ne demande pas à une calculette de nous comprendre. Elle peut mimer, singer ou exprimer des émotions, mais elle ne peut pas les vivre ni les ressentir. S'il y a, par exemple, elle dit « je suis triste », ce sont des mots. Ça ne veut pas dire qu'elle est triste. Ce n'est qu'une suite de mots codés par des informaticiens. ChatGPT a été programmé pour répondre à des phrases et à des sollicitations. Et en plus, c'est une intelligence artificielle qui est dite apprenante. C'est-à-dire que l'expérience des conversations permet d'améliorer les réponses, mais ça n'en reste pas moins un programme. Alors, une intelligence artificielle ne pourra pas être empathique, et ça n'a aucun sens que nous soyons empathiques vis-à-vis d'une intelligence artificielle.
Et puis l'empathie, justement, c'est un truc que les bourgeois et les capitalistes ne peuvent pas comprendre parce qu'eux-mêmes en manquent. Et c'est pour ça qu'ils sont persuadés qu'on peut tout calculer. Et également, c'est une majorité d'hommes cis qui sont affairés à s'amuser avec les robots. Donc il n'est pas surprenant que leur idée de l'intelligence s'arrête de manière tout à fait patriarcale aux calculs, aux statistiques, etc. Alors que les champs relationnels et émotionnels, qui sont par tradition accolés au féminin, sont exclus de cette définition de l'intelligence.
Alors le défi actuel autour des intelligences artificielles, c'est la reconnaissance des émotions à partir des expressions du visage.
Ouais, alors... Les présupposés de départ, c'est qu'il y aurait un petit nombre d'émotions. Le reste, ce serait des déclinaisons. Et dans les présupposés, ce petit nombre d'émotions serait universel. Il s'exprimerait donc de la même manière partout dans le monde. Et encore, ces émotions seraient lisibles sur le visage, toujours de manière universelle. Alors ces présupposés sont hautement discutables. Mais comme souvent avec les technologies ou avec la science en général, il n'y a pas besoin de justifier ces dires, il suffit de quelques études par des pseudo-scientifiques et le tour est joué.
Donc actuellement, tout un tas de logiciels sont vendus en disant qu'ils peuvent lire les émotions. Chacun des GAFAM, Google, Apple, Facebook, Amazon, a son propre logiciel de reconnaissance d'émotions.
Ils sont utilisés bien sûr dans le cadre de la surveillance, de la sécurité ou du domaine militaire, lors de passages de frontières avec e-border control et son détecteur de mensonges, dans le cadre de la surveillance des magasins, des rues, avec des caméras qui détectent les personnes stressées ou aux comportements bizarres. Mais ils sont aussi utilisés pour le recrutement dans des entreprises, dans le marketing avec l'analyse des comportements des clients ou dans la santé, par exemple. Alors, en réalité, l'analyse des émotions, c'est un bide complet. Ces logiciels ne reconnaissent pas les émotions. Alors pourquoi ? Eh bien, comme on s'en doute, les émotions, elles sont complexes. Elles sont souvent mélangées. Leurs expressions varient selon les personnes, mais elles peuvent aussi varier culturellement. Et puis, toute émotion n'est pas lisible sur le visage. On s'en doutait un peu. Mais, comme les scientifiques ont toujours raison, et que le marché des émotions est très juteux, et ben pas besoin de s'attarder sur une méthode bancale. On a donc des présupposés très contestables et contestés, et puis les bases de données utilisées pour nourrir les programmes de reconnaissance d'émotions, c'est quoi ? Et ben ce sont des personnes qui ont simulé les émotions devant un appareil photo. On a donc des émotions fausses prises comme origine de la reconnaissance de nos émotions les plus cachées. Donc en fait, c'est pas vraiment gagné que ça marche, ces reconnaissances. Mais là encore, la science et le marché économique auront certainement le dernier mot. On imagine qu'une machine qui dira qu'on ment lors d'un interrogatoire aux frontières ne sera pas remise en question. Nous, en revanche, il y a quand même bien des raisons qu'on soit en train de mentir finalement quand on commence à creuser.
Alors une intelligence artificielle, encore une fois, c'est un programme. Et ce programme, il est fabriqué par des personnes. Et ces personnes, elles vivent dans un pays, elles ont une culture, elles ont des habitudes. Alors, la programmation qu'ils et elles vont faire, c'est le reflet de ce qu'ils et elles sont en termes de personnes et des valeurs et des préjugés des sociétés dans lesquelles ils et elles évoluent. Un programme n'est donc pas neutre. On peut prendre l'exemple de l'intelligence artificielle d'Amazon qui a été utilisée pour présélectionner les CV des personnes qui postulaient dans la boîte. Elle s'appuyait, l'intelligence artificielle, sur une base de données de 10 ans de CV des anciens salariés et des salariés. Les recruteurs ont vite constaté que l'intelligence artificielle ne retenait aucun CV de femme. Eh ben ouais, comme la majorité des CV qui ont nourri l'intelligence artificielle, c'était des CV d'hommes, bah, le logiciel, il a logiquement suivi le même chemin. Et en fait, on lui a implicitement demandé de sélectionner des CV d'hommes.
Cet exemple, il montre à quel point le développement de programmes et le fonctionnement des IA n'est pas neutre. Tout ceci a lieu dans une société traversée par de multiples systèmes de domination. Il n'est donc pas surprenant que les intelligences artificielles reproduisent strictement les discriminations, puisque ces intelligences artificielles, elles n'ont pas de morale. Elles appliquent ce pour quoi elles ont été fabriquées.
Alors, on a trouvé une vidéo qui parle de ce sujet-là et elle est titrée « L'IA est raciste », entre parenthèses, « mais vous aussi ». Et le type explique comment l'IA répète le racisme de la société. Mais en conclusion, il trouve que c'est vachement compliqué de changer la société et de lutter contre le racisme parce que, entre guillemets, l'humain serait une machine bien difficile à programmer. Bon, alors l'humain n'est pas une machine, hein, mais bon. Mais que par contre, on pourrait reprogrammer les intelligences artificielles.
En fait, les IA pourraient même être nos meilleurs alliés pour lutter contre nos biais inconscients. Pour plus d'équité dans nos sociétés, l'utilisation des IA pourrait en fait être une priorité, à condition bien sûr de d'abord leur enseigner adéquatement des valeurs morales.
Alors, c'est une proposition bien naïve. Parce que juste au lendemain de l'arrivée de Trump au pouvoir, on a bien vu qu'une des premières mesures des milliardaires qui développent les intelligences artificielles, ça a été justement d'abandonner les mesures antidiscriminatoires dans le recrutement. En fait, imaginer que l'IA pourrait servir pour lutter contre les discriminations, c'est oublier que l'IA est un...